Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bien le bonjour messieurs, dames et bienvenue pour une nouvelle émission de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion. Nous voilà aux portes de l'hiver, la saison propice aux téléfilms de Noël, aux raclettes et autres fondus, aux listes de cadeaux, bref, la saison parfaite pour se caler au chaud sous un plaid avec un bon livre ou un super film pour se réchauffer le corps et le cœur. Et quoi de mieux qu'un bon Harry Potter pour profiter de ce moment? En livre ou en film, les aventures du petit sorcier restent une référence en matière de cocooning. Mais qui est vraiment Harry Potter? Comment un simple livre pour enfants est devenu en l'espace de quelques années un véritable phénomène mondial? Retour sur la fureur Harry Potter, avec tout d'abord un portrait de son auteur, J.K. Rowling. On parlera des livres et de leur adaptation ciné bien entendu, mais on verra aussi que 26 ans après, le petit sorcier et son univers rencontrent toujours autant de succès. Allez, c'est parti, j'attrape ma baguette et je traverse la voie 9¾ pour vous embarquer dans le monde fantastique du sorcier le plus célèbre du monde. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Sept livres, 500 millions d'exemplaires vendus, traduits en 79 langues, présents dans 200 pays, 8 films, 7,9 milliards de dollars de recettes, 4 parcs à thème, une polémique, une pièce à Broadway, 3 spin-offs, une série en préparation, des milliers de goodies et des millions d'admirateurs à travers le monde. Ces chiffres qui donnent le tournis se suffisent à eux-mêmes pour décrire l'ampleur du phénomène de Harry Potter. Que ce soit sous forme de livres ou de films, de jeux vidéo ou autres produits dérivés, la passion des fans pour leur héros est sans limite. Mais petit rappel pour les quelques-uns qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas encore l'histoire du petit sorcier. Harry Potter est un petit garçon anglais accueilli par son oncle et sa tante après le décès de ses parents. Famille aux tendances Thénardier, Harry grandit dans un environnement morose et austère jusqu'au jour de son 11e anniversaire. Il voit alors débarquer dans sa vie Hagrid, un semi-géant qui va lui révéler sa nature de sorcier et lui faire découvrir le monde fantastique de la magie.
Excusez-moi, mais qui êtes-vous?
Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr.
Désolé, non.
Non? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça?
Tout ça quoi?
Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi?
Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
Non, non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry, juste Harry.
L'école de magie de Poudlard, le monde des sorciers, arrive à être plongé dans un nouvel univers et sera vite emporté dans des aventures fantastiques avec ses meilleurs amis Ron et Hermione. Et bien sûr, qui dit héros, dit méchant. Et ici, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom, aka Voldemort, qui sera l'incarnation du mal et l'ennemi à abattre. Voilà pour le pitch, mais commençons par le commencement. D'où vient le personnage d'Harry Potter qui se cache derrière cet univers fantastique devenu phénomène mondial? À l'origine du phénomène, Joanne Rowling, que tout le monde connaît sous son nom d'auteur, J.K. Rowling. Née le 31 juillet 1965 à Yett, près de Bristol en Angleterre, elle est très vite baignée dans l'amour des livres grâce à sa mère, Anne Rowling. Petite fille rêveuse et créative, Joanne, l'aînée des deux sœurs Rowling, écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans. À 9 ans, elle perd sa grand-mère, Kathleen. Très marquée par ce décès, elle lui rendra hommage des années plus tard en ajoutant la lettre K à son pseudonyme de romancière, J.K. Rowling. Passionnée de littérature, c'est à son arrivée à l'université d'Exeter qu'elle découvre le théâtre de Shakespeare et ses héros qui vont l'inspirer tout au long de sa vie, comme avec sa pièce Le Comte d'Hiver et son personnage d'Hermione.
Oh, mais il est là, ce moment tant attendu.
C'est Culturez-vous sur Radio Évasion.
Après ses études, J.K. Rowling enchaîne les petits boulots, notamment de secrétaire chez Amnesty International ou encore à la Chambre de commerce de Manchester. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle s'installera avec son compagnon. Nous sommes en 1990. J.K. Rowling a 25 ans et perd sa mère, emportée par la maladie. L'écriture lui permettra de gérer ce drame, notamment en transposant ses émotions via ses personnages et tout particulièrement celui de Harry. Ce n'est d'ailleurs pas anodin, si Harry et sa créatrice sont tous nés un 31 juillet et sont orphelins. Mais revenons à sa création. C'est dans l'année de ses 25 ans donc que dans le train rejoignant Manchester à Londres que J.K. Rowling, dans ses pensées, commence à imaginer une histoire. Celle d'un petit sorcier évoluant dans un univers rempli de magie et de créatures fantastiques. Problème, dans le train, J.K. Rowling n'a rien pour écrire. Alors une fois arrivée à la maison, elle couche toutes ses idées sur des cahiers qu'elle gardera au fond d'une boîte à chaussures. Harry Potter est né. Quelques temps plus tard, elle se sépare de son compagnon et accepte un travail de professeur d'anglais à mi-temps. Toujours inspirée, elle continue en parallèle à travailler sur son roman. En 92, elle se marie avec un journaliste portugais et donne naissance à une petite Jessica l'année suivante. Mais son mari est violent et J.K. Rowling décide de divorcer et de repartir en Écosse. Jeune mère célibataire, elle se retrouve à la case départ. Seule avec son bébé, sans revenu fixe, elle vit des aides sociales et sombre dans une grande dépression.
Et comme ce n'est que lorsque j'ai levé le pied que je me suis vraiment rendu compte du désastre qu'était ma vie. On était aussi fauchés qu'on peut l'être, sans être à la rue. On survivait grâce aux allocations et à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression. Ça s'exprimait chez moi par une torpeur, une apathie et une incapacité à croire qu'un jour je pourrais être de nouveau heureuse ou avoir le cœur léger. Je voyais tout en noir.
C'est cette dépression qui lui inspirera d'ailleurs les personnages des Détraqueurs présents dès le tome 3. Ces créatures dépourvues d'humanité absorbent toutes les émotions positives des personnes qu'ils attaquent et symbolisaient toute la mélancolie et la torpeur de J.K. Rowling à cette époque. Malgré tout, elle reprend un poste d'enseignante à temps plein à Édimbourg, ce qui limite le temps qu'elle aimerait consacrer à l'écriture de son roman. Mais J.K. Rowling est déterminée, elle s'accroche et parvient à le terminer en 1995. Elle part alors à la recherche d'un éditeur qui pourrait le publier.
Je pensais qu'en écrivant ces livres, j'aurais des difficultés à les faire publier. D'ailleurs, j'ai eu des difficultés. Ça n'a pas été facile de trouver un éditeur. Et puis, j'ai pensé que si ce rêve se réalisait et que ce livre soit publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Mais je ne m'attendais évidemment pas à un tel succès. Jamais.
Elle essuiera pas moins de 12 refus avant que Barry Cunningham, référent des livres pour enfants de chez Bloomsbury Publishing, décide de publier Les Aventures du Petit Sorcier. Nous sommes en juin 1997 et les premières copies du roman sont éditées à 1000 exemplaires, dont la moitié destinée à des bibliothèques. Petite parenthèse, si par hasard vous possédez un de ces premiers exemplaires, sachez que le dernier à avoir été vendu aux enchères cette année est parti à plus de 12 000 euros. Je dis ça, je dis rien. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. It's a kind of magic. The bell that rings, it sounds.
Vous êtes sur Radio Évasion. Vous écoutez Culturez-vous.
Nous sommes en juin 97 et le premier roman d'Harry Potter vient de sortir. Son auteur, Joan Rowling, sera tout d'abord pressé par son agent de changer son nom pour adopter un pseudo plus masculin. Et oui, visiblement le public cible composé de petits garçons rechignerait à acheter le livre si celui-ci était écrit par une femme. Oui, oui, en 97 c'était visiblement normal. Bref, Joan Rowling devient donc J.K. Rowling. Et c'est ce livre, écrit par une femme, donc, qui commence à connaître un véritable succès et s'inscrit même dans la liste des meilleures ventes de l'année. En France, ce sont les éditions Gallimard qui flairent la bonne affaire avant même que le roman soit publié en Angleterre. Christine Baker, responsable des publications jeunesse pour la maison d'édition, a perçu le potentiel des histoires du petit sorcier et on peut dire qu'elle a eu le nez creux. À l'heure actuelle, les 7 tomes des aventures d'Harry Potter se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde. Traduits dans 79 langues, ils sont devenus des symboles de la littérature jeunesse et ont fait la fortune de son autrice. J.K. Rowling est devenue la première autrice de l'histoire à devenir millionnaire. Considérée comme la femme la plus puissante d'Angleterre, elle était même plus riche que feu la reine d'Angleterre. Un succès pas évident à gérer pour celle qui se méfie de la presse et limite ses interviews ou ses interventions publiques.
Je voulais être publiée et je voulais plus que tout au monde être écrivain. Jamais, James. Jamais je ne m'étais imaginé que les gens fouilleraient mes poubelles. Qu'on braquerait un téléobjectif sur moi à la plage. Qu'un journaliste irait frapper à la porte d'une amie de longue date et lui offrirait de l'argent pour qu'elle parle de moi.
Et vous tout ça?
Par certains côtés, c'est agréable. Par d'autres, c'est franchement horrible. Ce qui me plaît, c'est de bavarder avec les gens qui ont lu mes livres. Ça, c'est toujours formidable. Ce qui me gêne, c'est le côté théâtral des sorties de livres organisées à minuit. Quentin Crisp disait que pour réussir un passage à la télévision, il fallait avoir l'air heureux d'être là. Et ça n'a pas toujours été mon cas. Parfois même, j'ai eu l'air franchement malheureux. Et je sais qu'à la télévision, ça passe mal.
Du coup, plus que dans les médias classiques, c'est sur X, anciennement Twitter, qu'on la retrouve régulièrement. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Tout commence en 2019 où J.K. Rowling écrit un tweet en soutien Maya Forstheiter, une femme ayant perdu son travail après des propos transphobes. Premier d'une série, ce tweet sème le doute dans l'esprit du public et des fans.
Après avoir moqué l'idée qu'une personne trans puisse avoir ses règles, J.K. Rowling persiste et signe. À ses yeux, les femmes trans ne subissent pas les mêmes discriminations que les femmes nées dans un corps de femme, car elles ont été élevées en tant qu'hommes. Après donc avoir été massivement traitées de transphobes, la voici traitée de féministe radicale qui exclut les trans et encore. Je simplifie. La semaine dernière, les studios Warner, propriétaires des 8 films de cinéma Harry Potter, ont tranché. Une soirée spéciale est prévue en janvier pour les 20 ans de la franchise. Tout le casting est invité, pas J.K. Rowling, considérée comme trop clivante.
Ces polémiques écornent l'image de celle que le public considère comme la papesse de la littérature jeunesse. De nombreuses personnalités, dont les acteurs principaux des films de la saga, se sont mobilisées et ont pris parti contre les propos de l'autrice. Va-t-elle continuer dans cette lancée plus que douteuse et s'attirer à nouveau les foudres du public? En tout cas, une chose est sûre, même si une partie des fans a été refroidie et a tourné le dos au monde magique, Harry Potter reste aujourd'hui encore une référence absolue en termes de littérature et une mine d'or en termes de revenus. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, quelle est donc la formule magique pour que le phénomène Harry Potter perdure 26 ans plus tard? L'écriture déjà. J.K. Rowling écrit d'une manière particulièrement visuelle. Quand vous lisez un tome d'Harry Potter, vous visualisez instantanément les personnages, les décors, les objets. Vous plongez littéralement dans un nouvel univers. Autre atout, les aventures du petit sorcier se déroulent dans un monde imaginaire, mais aussi dans notre monde réel, celui des moldus, ces humains sans pouvoir, ce qui permet au lecteur de s'identifier au personnage. Toujours dans ce parallèle monde réel, monde magique, on a aussi le fait que chaque livre correspond à une année scolaire. Les enfants y retrouvent des quotidiens qu'ils connaissent bien, entre les cours, les devoirs, les examens, les vacances scolaires. Ils s'identifient à leurs nouveaux amis et deviennent vite accros à ce nouveau héros qui va même leur donner le goût de la lecture.
On parle de Pottermania. Les livres sont traduits en 80 langues et vendus dans 140 pays.
Ça a déclenché quelque chose d'assez amusant, c'est-à-dire que les gens se sont mis à lire en anglais. En attendant la traduction, il y a des gens qui étaient tellement accros qu'on a réussi à faire lire en anglais Harry Potter.
Avant, je n'aimais vraiment pas lire, mais j'ai été captivée par Harry Potter. Depuis, je ne peux plus m'arrêter de lire. Je ne peux plus faire mes devoirs. Je ne fais plus rien d'autre.
Elle a réconcilié les enfants avec la lecture. Je me souviens très bien qu'on voyait dans un bus, dans un métro, dans un avion, pratiquement chaque personne avait Harry Potter en main.
Les livres d'Harry Potter sont des romans d'aventure, mais aussi des contes initiatiques et philosophiques. Et ça, ça plaît aux enfants comme aux ados. Et c'est sans doute pour ça que toute une génération a retrouvé le goût de la lecture. On y parle de la mort, des épreuves de la vie et comment y faire face. Tout au long de son œuvre, J.K. Rowling met aussi en évidence des grandes valeurs humanistes telles que la tolérance, la loyauté, la solidarité, l'intégrité ou encore l'entraide. Chacun de ces personnages devient un symbole. Celui du courage et de la résilience pour Harry, de l'intelligence pour Hermione, de la loyauté pour Ron ou encore de la sagesse pour Dumbledore. Et chaque aventure devient l'occasion de poser des problèmes de conscience morale, tels que le choix entre le bien et le mal, les conséquences de nos actes, notre mise en question, la place de l'amitié et la gestion des sentiments. Considérés par certains comme de simples livres jeunesse, ils sont pourtant nombreux les spécialistes, conférenciers, grands philosophes et détenteurs de doctorats qui dissèquent les romans de J.K. Rowling. Que ce soit dans des universités de renom, des conférences spécialisées, et même chez nos confrères de France Culture, tous étudient le phénomène.
Harry Potter continue à séduire les enfants les premiers, et puis les parents qui ont grandi avec Harry Potter sont très très contents de partager Harry Potter avec leurs enfants. Et les nouveaux parents apprécient aussi beaucoup Harry Potter, parce que c'est un des grands talents de Rowling dans ses romans, de pouvoir s'adresser aux enfants et aux adultes en même temps.
Comme le dit Edwige Pasquier, la présidente de Gallimard Jeunesse, c'est ça aussi la grande réussite de J.K. Rowling. Réussir à réunir des générations entières autour de son œuvre. Les parents s'appuient sur les livres pour partager des moments avec leurs enfants. Les adultes aiment retrouver les livres qu'ils ont connus dans leur jeunesse. Et les enfants prennent plaisir à plonger dans un univers fantastique. Avec ce succès planétaire, on se doutait bien que des studios allaient vite se pencher sur ces romans et lancer des adaptations ciné. C'est en 2001 que sort le premier des 8 films de la saga. À ce moment-là, nous en sommes au tome 4 au niveau des livres. Et là encore, c'est un véritable raz-de-marée. Les fans se précipitent dans les salles et attendent chaque nouvelle sortie comme l'arrivée du Messie.
De Londres à Washington, un seul nom dans la bouche des enfants ce 16 novembre 2001. Harry Potter, le jeune sorcier, héros des livres, prend vie pour la première fois au cinéma. Pottermania sur les écrans du monde entier. Comment sorceler ? Les billets se vendent parfois plusieurs jours à l'avance.
On a acheté nos tickets il y a un mois, sur Internet. Oh, j'ai hâte de le voir. J'ai acheté mon ticket il y a 2 semaines et demie.
Avec une première digne des plus grands blockbusters hollywoodiens.
Pour les deux premiers films, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, les studios de la Warner Bros. Confient la réalisation à Chris Columbus. Pourtant, au départ, c'était un certain Steven Spielberg qui devait se charger du film. Mais sa vision du projet est très différente de celle des studios. Lui voit un film d'animation rassemblant la totalité des éléments des livres quand la Warner ne jure que par le live action. Pour le rôle principal, Spielberg avait en tête un jeune acteur déjà vu dans Le Sixième Sens ou Forrest Gump, Hayley Joel Osment. Mais J.K. Rowling est intransigeante. Tous les acteurs et les décors seront britanniques. Pas de passe-droit, même pour Spielberg. Toutes ces divergences artistiques mettront un terme à la participation du réalisateur multi-oscarisé. C'est donc sur Chris Columbus que repose l'énorme pression de cette adaptation. Déjà bien connu pour avoir réalisé Madame Doubtfire ou Les Mamans j'ai raté l'avion 1 et 2, Chris Columbus travaille de concert avec J.K. Rowling pour réussir à recréer l'univers du petit sorcier.
J'ai vraiment le sentiment qu'on m'a demandé mon avis. Évidemment, il y aura des gens pour trouver que ce n'est pas mon univers, mais je peux vous assurer que ça l'est.
On le sait, J.K. Rowling a supervisé beaucoup de détails du film, notamment son casting. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle-même a failli jouer la mère de Harry. Elle s'est finalement dit que n'étant pas actrice, elle pourrait gâcher les scènes et a préféré laisser sa place. Le casting final sera donc composé d'acteurs méconnus, mais aussi de grands noms du cinéma britannique, comme Maggie Smith, Helena Bonham Carter ou encore Gary Oldman. Exigence de l'auteur oblige, il est composé uniquement d'acteurs anglais. C'est d'ailleurs ce qui aura valu à l'américain Robin Williams de se faire recaler pour le rôle du gentil géant Hagrid. Ainsi, après les castings de milliers d'enfants, on va découvrir les jeunes anglais Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe qui incarneront respectivement Ron, Hermione et Harry. Ces trois enfants, âgés de 11 ans, se voient alors propulsés au rang de superstars en l'espace de quelques jours, emportés par le plus gros succès du box-office mondial de l'époque. C'est d'ailleurs ce succès, particulièrement puissant et compliqué à gérer, qui fera tomber Daniel Radcliffe dans l'alcoolisme quelques années plus tard. L'acteur de Harry Potter révélera avoir eu beaucoup de mal avec le regard des autres et son image de star interplanétaire. Il avouera même avoir tourné certaines scènes en étant encore sous l'emprise de l'alcool. Pourtant, Daniel Radcliffe était fort bien entouré. Tout au long des 8 films, et aujourd'hui encore, les équipes parlent des liens très forts qui se sont créés durant ces tournages. Certains ont cependant failli ne pas faire partie de l'aventure. C'est le cas de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, connu aussi sous le nom de Voldemort, l'ennemi juré d'Harry Potter. Si pour le monde entier il est incarné par Ralph Fiennes, celui-ci n'était au départ pas franchement chaud pour endosser ce rôle.
Un rôle que vous avez failli refuser au début, c'est vrai ça ?
Yes, it's true.
Oui, c'est vrai.
Yeah, oui.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Well, it was because of ignorance.
Ben, parce que c'était de l'ignorance.
I hadn't read the books.
Je n'avais pas lu les livres. J'avais pas vu les premiers films, les épisodes. Je crois que c'était des films pour enfants. J'avais un biais en raison de mon ignorance. Mais c'est ma sœur. J'ai deux sœurs. Ma sœur Martha, qui a trois enfants, qui avait à l'époque 12, 11, 8 ans. Ils m'ont dit, mais ils veulent que je fasse Voldemort.
Ils disent,
ouais, super, vas-y.
Voldemort.
C'est quoi ? Mais vous êtes des dingues. Et ben, je m'en suis rendu compte. Voilà. Et ils m'ont montré des photos pour l'apparence. Et j'ai commencé à changer d'avis. Et j'ai adoré jouer Voldemort.
Tout comme Hélène McCrory, également connue sous le nom de Polly Shelby chez les Peaky Blinders, qui n'a pas pu endosser le rôle de Bellatrix Lestrange à cause d'un calendrier trop chargé, mais qui a quand même pu participer à l'aventure sous les traits de Narcissa, la mère du méchant Malfoy. Ce casting 4 étoiles que l'on retrouve tout au long des films a tout de même connu quelques changements. Déjà, chez les réalisateurs. Si Chris Columbus a réalisé les deux premiers volets, c'est Alfonso Cuarón qui s'occupe du numéro 3, suivi du réalisateur de 4 mariages et un enterrement, Mike Newell, pour le quatrième film. Et enfin, David Yates pour les quatre derniers opus. Du côté des acteurs, c'est le décès de Richard Harris, le Dumbledore des deux premiers films, qui fera de Michael Gambon le nouveau directeur de Poudlard. Disparu cette année, il aura su incarner avec brio le personnage d'Albus Dumbledore durant les 6 derniers films. Malheureusement, nombreux sont les acteurs de la franchise à être aussi partis rejoindre les étoiles. L'inoubliable Hagrid, incarné par Robbie Coltrane, Hélène McCrory, alias Narcissa Malfoy, Richard Griffiths, connu comme l'oncle Vernon, ou encore Alan Rickman, l'excellentissime et inoubliable professeur Rogue. Entouré de mystères, on ne saura jamais qui est vraiment Severus Rogue. Entouré de mystères, on ne saura jamais vraiment qui est le personnage de Severus Rogue. Indique pour les uns et traître pour les autres, ce secret rendra le public dingue jusqu'au dénouement final. Seuls J.K. Rowling et l'acteur Alan Rickman savaient dès le début du tournage quelles étaient les intentions réelles du professeur Rogue. Avantage énorme pour pouvoir incarner au mieux ce personnage ambivalent, mais pression énorme aussi quand on sait à quel point le secret des livres était bien gardé.
Harry Potter, le 7e et dernier tome est à l'imprimerie, mais pour garder les secrets des aventures du sorcier, c'est en Allemagne que les premiers exemplaires sont mis sous presse, avec des conditions de travail drastiques pour les ouvriers qui doivent tout ignorer du texte. Explication, Jean-François Firet.
Les imprimeurs des dernières aventures du magicien travaillent dans le noir. Le truc, les ordres de l'éditeur. Rien, absolument rien ne doit filtrer de cette imprimerie de l'Est de l'Allemagne, interdite aux caméras. Les employés sont fouillés matin et soir, menacés de licenciement s'ils divulguent quoi que ce soit de l'intrigue. Les exemplaires achevés sont enfermés dans des caisses, fermées par des chaînes cadenassées.
Et oui, quand on voit les millions que brassent les livres ou les films Harry Potter, on se doute que tous les professionnels de l'édition et des studios ciné sont sur les dents. Et quand je vous dis millions, c'est un euphémisme. À ce jour, les 8 films adaptés des livres Harry Potter ont rapporté plus de 7 milliards de dollars au studio Warner. Et là encore, magie du cinéma et du marketing, 3 autres films ont vu le jour après le dernier volet de la saga. Adapté d'un petit livre type dictionnaire des créatures magiques écrit par J.K. Rowling en 2001, la saga des animaux fantastiques a connu moins de succès que ses prédécesseurs, mais a tout de même rapporté environ 2 milliards de dollars. Tout est relatif. Et ça, c'est sans compter tous les produits dérivés. peluches, Lego, déco, vêtements, en passant par la machine à panini, les selles de bain ou encore les slips aux couleurs des quatre maisons de l'école, on trouve absolument tout ce qu'on veut à l'effigie du petit sorcier. Il faut dire que sa communauté de fans est l'une des plus actives dans le milieu du cinéma. Les Potterheads, comme ils se baptisent, sont des fans ultra. Incollables sur leur héros préféré, ils dépensent sans compter et sont souvent complètement accros à cet univers.
Librairie anglaise de Paris hier soir, comme des centaines de fans, Benjamin et Yael ont bravé la foule pour assister à la sortie en anglais du sixième tome d'Harry Potter. Hors de question pour eux de passer à côté de l'événement.
Dès que le livre il a posé la première feuille sur le sol français, il faut absolument qu'on l'ait, c'est obligé. S'il n'avait pas été en France, j'aurais été à Londres.
Et ils ont attendu 6 heures avant l'instant de grâce.
26 ans plus tard, Harry Potter continue de cartonner. Rediffusion, émission spéciale 20 ans, jeu télé, à chaque fois les audiences explosent. Que ce soit avec les premiers films sous la bannière Harry Potter ou leur spin-off Les Animaux Fantastiques, les franchises du petit sorcier restent une valeur sûre en matière de succès et de recettes. Vous n'avez donc pas encore fini de voir et revoir les diffusions télé, surtout en cette fin d'année. Mais pour celles et ceux qui en veulent encore plus, en ce moment est diffusé sur HBO un documentaire produit par Harry Potter himself retraçant la tragique histoire de son cascadeur David Holmes. Gymnaste de formation, il a doublé Daniel Radcliffe sur 7 des 8 films réalisés. C'est sur la première partie des Reliques de la Mort qu'il subit un grave accident qui le laissera paralysé du cou jusqu'au pied. L'acteur et sa doublure ont créé au fil des années des liens très forts, et c'est aussi pour ça que Daniel Radcliffe a souhaité participer à ce documentaire. The Boy Who Lived, ou Le Garçon qui a survécu, est un hommage direct à ce rôle qui aura changé la vie de ces deux Anglais. Mais j'entends des fans qui en veulent encore. Ok, ok, on prend son mal en patience, mais une série Harry Potter devrait apparaître sur la plateforme HBO Max courant 2025. L'idée ? Reprendre les aventures de base du petit sorcier, renouveler le casting, y ajouter de nombreux détails passés à la trappe dans les films, comme le fantôme Peeves, ou la libération des elfes, la carte du maraudeur, bref, du plus, du plus, du plus. Et sachant que la Warner a signé pour 10 ans de série, ils auront bien le temps de développer tout ça. Mais avant de pouvoir découvrir ce nouveau projet, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.